Être artiste drague, ce n'est pas de tout repos. Et je ne parle pas seulement du talking ici, pour ceux qui savent ce que c'est. Sinon, bon, on va vous en parler tantôt. Je vous suggère de faire une petite recherche en ligne. Mon invité s'appelle Eliwell. Hein? Eliwell, c'est son nom de drag queen, et qui commence à percer ici sur la scène montréalaise et peut-être pourra nous répondre à tous ces défis-là. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Denis Martin.
Ben, merci beaucoup d'être là. Alors, à chaque fois que je reçois une nouvelle personne ici, je demande à cette personne quel accord et quel pronom utilises-tu?
Alors, out of drag, on peut dire il, lui,
okay.
Mais en drag, tous les pronoms.
Alors, en civil, comme je fais toujours la blague, ça va être il, d'accord. Mais parle-nous de toi.
Oui, mais c'est ça, je pourrais parler de mon parcours drag, de mon parcours personnel. Out of drag, je suis un militant queer, militant depuis comme 13 ans maintenant.
Oui.
Donc très engagé, j'ai fait mes recherches sur l'adoption par les couples de même sexe en France. C'est toujours des sujets qui m'ont parlé. C'est aussi pour ça que finalement dans mon drag, j'essaye aussi d'être vocal sur la scène drag, sur aussi des fois des problématiques qu'on peut retrouver aussi sur la scène drag. Et en tant que drag, j'aime dire que j'ai toujours été une drag queen au final, parce que enfant, j'ai toujours incarné un personnage féminin dans le jeu. J'ai toujours fait des spectacles dans le salon devant mes parents. J'ai toujours finalement mis des spectacles donc en queen, disons. Donc je portais des fausses perruques, etc.
Puis ah
c'était
oui,
vraiment
puis...
comme à mettre toujours.
J'ai toujours ça, c'était en France, parce que tu sais qu'on a toujours l'impression qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais après, il y a la France, puis il y a ce qui se passait dans mon salon avec mes parents.
C'est bon, ça.
Mais c'est ça, mes parents, finalement, étaient quand même très ouverts, puis ils m'ont soutenu, puis ils me soutiennent toujours. Donc, j'aime dire que j'ai toujours été une drag queen, mais officiellement, j'ai commencé donc il y a quelques années avec des amis. Puis, grosse avancée l'année dernière grâce au festival MAD. Donc, moi, j'ai eu la chance de défiler en tant que modèle féminin au festival MAD, donc un festival de mode. Puis depuis, je navigue vraiment entre mode et performance. Donc j'ai beaucoup, beaucoup en fait de contrats plus dans la mode en tant que mannequin féminin ou queer. Puis je m'estime très privilégié de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentation dans ce milieu-là. Puis c'est un monde qui est très binaire. Puis après, des performances à Montréal ou ailleurs.
Bon, donc tu me dis que tu es une personne qui est activiste ou qui est très impliquée. Je sais que tu travailles à Fierté Montréal, si je ne me trompe pas.
Oui, oui. Dans ma vie civile,
oui.
C'est ça.
Bon, alors, tu t'es décrit comme une drague qui fait de la performance et qui fait de la mode. Moi, j'ai remarqué, parce que c'est pas un problème, mais c'est une drag queen qui a la moustache souvent et qui est poilue.
Et qui a la moustache.
Ouais.
Parce qu'en fait...
Moi, j'avais remarqué que tu n'avais pas rasé...
Ah non, j'ai tout enlevé.
Ah, okay.
Non, j'ai tout enlevé. C'est juste la moustache. Je dirais que c'est quelque chose que j'ai gardé de ma première fois, au final. Première fois, je voulais garder la moustache, plus, je pense, par fainéantise. J'avais comme pas envie que dans ma vie civile, ça se voit que je m'étais rasé puis que les gens me posent des questions. J'avais gardé la moustache une première fois, puis une deuxième. Puis j'ai gardé finalement cette moustache qui m'a suivi. Après, pour moi, il y avait aussi une volonté de m'affranchir un peu des codes des normes, des codes de genre aussi.
Ouais.
Puis donc, au-delà de la binarité féminin-masculin, puis d'aller chercher, moi, ma réponse un peu aussi physique à ce que je voulais être. Puis donc, j'ai gardé la moustache. J'aime dire, parce que je suis français, mais aussi portugais. Puis, je sais pas, en France, on a un stéréotype sur les Portugais qui disent que les Portugais sont moustachus. Donc, j'aime dire que voilà, je suis une vraie Portugaise.
Une femme à barbe.
Exact, c'est ça.
Mais en fait, Conchita Wurst, que tu connais, moi, ça a été la chose qui m'avait pas fasciné, mais qui m'avait tellement plu, cette espèce de rejet des codes. Et Conchita avait très féminine, mais avec cette grosse barbe.
Exact. Mais tu sais, le drag, au final, c'est quand même, à un moment donné, c'est un jeu. Un jeu. On joue avec les codes et les normes de genre. On joue, donc c'est vraiment un terrain de jeu qui est quand même assez libre. On peut vraiment être libre. Moi, j'aime justement, par exemple, Conchita Wurst est extrêmement... On dirait qu'elle est extrêmement féminine. Après, elle se définit aussi d'une manière féminine. Mais j'aime l'idée qu'elle avait cette barbe. Ouais. Barbe, en plus, qui, je crois, était artificielle. Je pense que c'était pas sa barbe naturelle.
Alors, c'est pas comme la Big Bertha et compagnie en France, pour ceux qui regardent Drag Race.
Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble que c'était un ajout, au final.
Oui.
À ce moment-là, puis je trouvais ça intéressant aussi comment justement elle portait un message à travers son personnage, son drag, mais parce que Conchita Wurst, c'était quelque chose, moi je l'ai vécu en Europe, là c'était quelque chose, C'est en Europe, on est comme, surtout en France, on n'est pas toujours très ouvert. Puis on a besoin de s'ouvrir et puis d'évoluer sur beaucoup de représentations. Puis elle a initié quand même un mouvement intéressant.
Juste parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent en France, mm-hmm. on dit ça avec beaucoup, beaucoup de bienveillance.
Oui, oui, oui. Moi, j'aime les Français, Françaises, puis je vous aime tous.
Oui, moi aussi. Alors, on parle de tous ces phénomènes drag, mm-hmm. et ce qui est intéressant, donc toutes ces façons de faire le drag ou faire de la drag. Et tout ça, ça a quand même évolué depuis 17 ans. Ça fait 17 ans, 17e saison de RuPaul's Drag Race. Ça a vraiment changé les choses, ça.
Mais quand même, je dirais qu'il y a beaucoup de bons côtés parce que finalement, on est, ça a vraiment participé à démocratiser l'art du drag, qui était quand même un art assez méconnu ou qui se réservait, je dirais, plus qui est un art un peu niché. Là, ça l'a vraiment démocratisé énormément. Ça a permis de donner une énorme visibilité à nos communautés. Puis, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on dira jamais non à plus de visibilité. Parce que derrière aussi la visibilité de l'art, il y a aussi la visibilité de beaucoup de combats. Moi, j'aime beaucoup regarder Drag Race, puis voir comme qu'ils abordent vraiment des sujets, puis des questions de lutte aussi qui nous concernent. Puis ça, c'est vraiment important. Tu sais, c'est vraiment important de porter ces messages sur des émissions qui sont massivement regardées. Moi, je vais faire là, pour le coup, un petit clin d'œil à la France. Mais moi, j'aime l'idée qu'en France, ça soit aussi France TV qui le diffuse.
Donc, la télé nationale, oui.
C'est une télé publique, au final. Puis ça, c'est un message fort aussi. Ouais. C'est un message fort. Moi, je vois comme ces dernières années, comment ça a contribué à faire évoluer les luttes, mais faire évoluer aussi le phénomène. Puis ça permet vraiment à des dragues de s'émanciper dans cet art, de prendre du plaisir à le faire, d'être reconnu aussi en tant qu'artiste. Donc ça, c'est vraiment les bons côtés aussi de Drag Race. Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques années d'adaptation. Je dirais qu'il y a encore des fois des petits soucis, des fois de représentation de certains dragues. Parce qu'on connaît beaucoup les drag queens, finalement, grâce à Drag Race, mais il y a très peu, voire pas du tout, en fait, de représentation king, par exemple, qui est quand même la représentation
king. Mais parce
king.
Que RuPaul n'est pas intéressé à des drag queens à son émission. Et moi, personnellement, je trouve ça dommage parce qu'il y a tout un an, on en a invité plusieurs ici à cette émission des drag kings.
Exact. Ouais. Il y a vraiment une scène king qui est hyper importante, puis les revendications sont similaires, mais apportent aussi comme des autres points de vue. Finalement, quand on met très en valeur les drag queens, puis tu sais, je vais même aller plus loin, c'est un certain type de drag queen qui est représenté. On a très peu de drag alternatives, on a très peu finalement de drag queer, on a très peu de genderfuck, je te dirais, comme dans Drag Race, c'est vraiment un certain type de drag qui est représenté. Ça peut laisser penser que seulement ce drag est légitime. Ce qui n'est pas le cas, tu sais, c'est comme tout art, tous les arts sont légitimes, puis tu sais, comme...
Mais moi, je vais les nommer les drags qu'on voit moins souvent. Je vais les nommer parce que, moi, ça me fâche un petit peu. Alors, la drag queen qui est grosse, une personne grosse, on n'en voit pas souvent qui gagne. Et elle participe, mais on n'en voit pas souvent qui gagne. Bon, Drag Race aux États-Unis, il y a eu quand même plusieurs drag queens de couleur, des drag queens noires. Moi, j'avoue, puis là, je vais faire, encore une fois, je me permets comme animateur de faire certains commentaires. Moi, j'avoue que Drag Race France, je préfère beaucoup, beaucoup à ce que je vois aux États-Unis. Je préfère aussi Drag Race Canada et Drag Race Belgique parce que je trouve que c'est beaucoup plus bienveillant. Puis il y a beaucoup plus de représentation. Même, je me rappelle, Drag Race UK, il y avait des femmes à barbe qui ont fait de la drag. Ça m'amène à parler justement de participer à ces émissions-là, ça coûte cher. 10, 15, 20 000 $ et je pense que ça va continuer à augmenter.
Exact.
Est-ce que toi, ça t'intéresse un jour de participer à Drag Race?
Je me suis questionné, puis c'est quelque chose qu'on me demande souvent. À date, pour le moment, je ne pense pas. Mais c'est bien sûr, quand on est drag, c'est un questionnement, disons, quotidien quasiment. Mais c'est vrai que l'aspect financier, par exemple, c'est quelque chose que je peux trouver un peu problématique. Des fois, on est sur...
Ça élimine en tout cas les personnes marginalisées.
Exactement. Quand tu parles de 15, 20, il y a des queens qui ont dépensé parfois jusqu'à 50 000 dans certaines saisons. C'est quand même énorme. Il y a le côté aussi, peut-être, comme tu dis, un peu télé-réalité aussi, des fois, surtout US, qui me plaît parfois un peu moins, justement parce qu'on perd des fois de la bienveillance, parce que ça reste de la télé. Ça reste de la télé, puis des fois on perd un peu de bienveillance, on glorifie des fois un peu aussi le vilain ou la vilaine dans les saisons, puis tu sais, ça nous fait rire, on en parle sur les réseaux, mais tu sais, moi c'est un art pour moi qui est très lié à la personne. On est très vulnérable quand on est drag queen, on est très vulnérable quand on est drag king, on est très vulnérable en fait quand on fait du drag. Donc à partir du moment où on est très vulnérable, j'ai du mal un peu avec l'idée d'être exposé sur sa vulnérabilité et d'offrir aux gens la possibilité de nous critiquer ou de rire de nous, puis de rire de certaines caractéristiques, etc., de rire de notre art, parce que c'est très lié à nous. Donc moi, peut-être que je suis un peu sensible, donc je te dirais que pas tout de suite, pourquoi pas un jour. Mais si je devais le faire, ça serait peut-être finalement Drag Race France, justement, oui, pour ce que tu as cité tantôt.
Ah, Nikki Doll, moi, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur, mm-hmm, pour elle, parce qu'elle est vraiment bienveillante. Oui. Qui est vraiment je la connais pas, mais vraiment une bonne personne. Oui. On peut le voir dans sa façon de faire. Bon, toi, tu fais... Oui, j'ai vu ton portfolio, évidemment, des photos magnifiques.
Merci.
Et évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de mannequins féminins qui doivent t'en vouloir un peu parce que tu as la shape, hein, le corps pour faire ce genre de photos-là. Comment as-tu... t'es arrivé là-dedans un peu comme un cheveu sur la soupe, là, c'est
oui,
ça?
Et oui, exactement. Le milieu de la mode, je te dirais que c'est quelque chose... Tu sais, j'ai un peu l'impression des fois d'avoir pris ma revanche parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup plus jeune. J'aime toujours le milieu de la mode. J'ai fait beaucoup de casting, puis j'ai eu beaucoup de rejets, beaucoup de noms en tant que modèle dit masculin. Ce qui est drôle, c'est de l'avoir retrouvé comme des années plus tard en drague. J'ai eu une proposition au Festival MAD, en fait, d'un créateur qui voulait justement amener des personnes queer sur le stage. Puis on était deux dragues, donc moi j'aime dire que c'est ma sœur drague. On a commencé le même jour, elle est française aussi, donc elle s'appelle Mia, votre amour. Mais donc on a commencé ensemble le même jour, puis on a été comme bouquets tous les deux. Puis de là, j'ai vraiment pris du plaisir. Puis après, j'ai comme eu la chance, en fait, d'avoir des collaborations avec des photographes, d'avoir des collaborations avec des créatrices de Montréal. Puis je sais pas si c'est de la chance du travail, mais en tout cas, je travaille fort dessus. J'ai la chance d'avoir des belles collaborations avec des artistes, mais j'investis beaucoup ce milieu-là aussi.
Le milieu est-il aussi accessible qu'il l'était, qu'on pense qu'il l'est? Parce qu'on a beaucoup mentionné, mm-hmm, les personnes marginalisées, les personnes donc venant de ce que je dis ici, pan-déci, hein, donc, mm-hmm, les personnes autochtones, noires et de couleur, l'équivalent de BIPOC, mm-hmm, en anglais, les femmes, les personnes non conformes, les autres, mm-hmm, horizons. C'est difficile?
Oui. Et je vais le dire en étant... moi-même, c'est un homme blanc qui est là, tu sais, qui va parler de ce sujet. C'est, moi, je dirais, ce serait intéressant de poser ces questions déjà à ces personnes-là, tu sais, qui sont concernées. Je le sais, après, j'observe, on a des discussions entre nous, puis je l'observe. Il y a un manque de représentativité quand même dans la scène drag, de la scène drag. On ne peut que l'observer. On a une majorité de, voire quasiment une exclusivité de drag queen, surtout dans le village, par exemple, de drag queen, mm-hmm, de drag queen blanches, qui sont majoritairement des hommes cis. Aussi, ouais, sous la perruque, on a une faible représentation des femmes, on a une très faible représentation des drag kings, on a une très faible représentation des personnes de couleur, surtout dans le village. Mais tu sais, veux, veux pas, le village, ça reste que c'est un peu là où les touristes vont pour aller, ouais, voir des shows drag. Alors, il y a une super scène alternative drag à Montréal, il y a des personnes queer partout à Montréal. Donc oui, il y a des drag kings, oui, il y a des drag queer, oui, il y a des drag non conformes, il y a comme des dragues des personnes racisées, des femmes cis, il y a des femmes trans, il y a des hommes trans. Tout le monde fait du drag, le drag c'est pour tout le monde. Mais il y a quand même une absence de représentativité dans les lieux, je dirais, majeurs de diffusion. Mais ça change un peu.
Mais nous, à cette émission, en tout cas, on fait beaucoup d'efforts parce qu'on veut donner cette représentation aux, mmh, personnes différentes. Mais j'avoue que beaucoup de ces personnes marginalisées ne viennent pas se plaindre parce, mmh, que c'est pas toujours facile non, exact, plus de le faire, puis on comprend ça. Ben, merci d'avoir,
merci,
soulevé
beaucoup,
ce projet, cette problématique-là. Merci d'être passé nous voir. J'ai dit Eliwell, c'est comme ça que c'est, tu le prononces?
Oui, c'est ça.
Ça vient d'où ça déjà?
Alors, c'est...
On a juste une minute là.
OK, très rapidement. C'est le nom de famille des sœurs dans la série Charmed. C'était une série que je regardais quand j'étais enfant. C'est les sœurs Eliwell, donc...
Eliwell.
Voilà, Eliwell.
Merci beaucoup, Eliwell.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.